Qu'est-ce qu'on peut faire?
Tout le monde l'a demandé, le défenseur des droits aussi l'a demandé, tout le monde l'a demandé, qu'il y ait... alors, la dernière fois, moi, j'ai rencontré le préfet de l'immigration à Paris le 9 décembre, qui a dit qu'ils essayaient de mettre en place un moyen pour, effectivement, les gens qui ne peuvent pas avoir accès à un ordinateur, etc., que c'était... dans les tuyaux, quoi, pour le moment. Mais est-ce que toutes les préfectures le font, ça, j'en sais rien.
Alors qu'elles le faisaient tout avant, donc elles savent faire.
Avant, il n'y avait que ça.
C'est quand même... c'est, ça aussi, c'est une violence qui est faite aux citoyens et pas seulement aux immigrés, d'obliger les rapports avec l'administration par le voie du numérique. Parce qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas en capacité, que ce soit pratique, physique, intellectuelle ou autre, de rentrer dans des procédures numériques. Parce que des fois, c'est très compliqué.
Et puis, sans compter que...
C'est arbitraire.
C'est même pas seulement les gens qui sont pas, qui peuvent pas avoir accès, c'est aussi qu'il n'y a pas de dialogue possible.
Donc,
moi, j'ai assisté à des dialogues de sourds comme ça, avec ce procédé, où un jeune, on lui demandait un certificat de scolarité pour renouveler son titre étudiant, et il n'avait pas de certificat de scolarité puisqu'il avait fini ses études. Mm-hmm. Lui, ce qu'il demandait, c'est un rendez-vous pour avoir changé son titre en titre salarié. Et ça a duré, je ne sais pas combien. Et à chaque fois, le titre étudiant...
C'est un dialogue de sourds avec une machine.
Et j'ai fini par lui dire, écoute, puisque tu ne peux pas mettre de message, la seule chose que tu peux faire, c'est mettre une pièce jointe. Mm. Donc, tu fais une lettre et tu mets en pièce jointe à la place de ton...
Oui.
Et finalement,
ça a marché.
Mais
Il faut y penser. Voilà. C'est parce qu'on voit bien que les machines sont limitées dans leur possibilité. Volontairement limitées aussi dans leur... quand vous avez une liste déroulante avec trois réponses possibles et que vous ne rentrez pas dans la case, la machine vous jette. À la fin, vous pouvez pas finir la procédure, et c'est valable dans plein de relations avec l'administration générale.
Et enfin, mais la liste elle est sûrement pas exhaustive, on pourrait en rajouter, la signature de la convention internationale par la France sur la protection des droits de tous les travailleurs et des membres de leur famille.
Les travailleurs migrants.
Oui.
Oui. Qui est à l'origine donc de la journée internationale des migrants du 18 décembre. Hein, donc ça, c'est quelque chose qu'on réclame depuis des années, puisque effectivement, il y a tout un tas de travailleurs migrants qui n'arrivent pas à faire valoir leurs droits, alors qu'il y a une convention internationale et on comprend pas pourquoi la France la signe pas.
Ouais.
Est-ce qu'on a d'ailleurs des réponses par rapport à ça? Il fait quoi le gouvernement là? Il est en vacances? Signer une convention, ça demande...
On pourrait dire ça les oblige si
après la respecter.
Mais quand on voit la Convention internationale des droits de l'enfant, je suis même pas sûre que ça les oblige tellement, hein, parce que quand on voit ce qui se passe, quand ils expulsent un parent, quand ils mettent des enfants en rétention,
quand il y a 150 bébés qui naissent chaque année dans la rue, en France, et qui vivent dans la rue. Il y a énormément, de plus en plus de jeunes enfants qui vivent dans la rue. Mmh. On se dit effectivement que le respect des droits de l'enfance, ce n'est pas le premier point de l'agenda de notre gouvernement. Alors, je crois qu'on a un peu fait le tour de toutes les...
Tout à fait.
Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter avant de clore cette émission?
Oui, on est en train de se battre quand même contre la loi Darmanin. Il y a eu une journée devant les préfectures dans toute la France le 1er février. Et la prochaine mobilisation, c'est le 17 février, je crois. Aussi, dans tous les départements français, il y aura des mobilisations.
Alors, n'hésitez pas, si vous pensez que ce projet de loi est contraire à vos valeurs républicaines, à rejoindre les différentes sections de la Ligue des droits de l'homme, là où vous habitez, en Ile-de-France ou ailleurs, puisqu'on a aussi des gens qui nous écoutent sur Internet, tout le monde n'est pas en région parisienne. La Ligue des droits de l'homme a aussi besoin de soutien et de gens qui sont actifs pour essayer de faire progresser le droit en France, en règle générale, que ce soit pour les enfants, les migrants, les hommes, les femmes et tout le monde. Donc merci Véronique et Brigitte, Lamia et Kumba d'avoir participer à cette émission des gens des droits animée ce soir par la Ligue des droits de l'homme, la section du 20e arrondissement de Paris. Et nous allons clore cette émission avec une dernière chanson de Tikenja Fakoli, le chanteur ivoirien, qui va nous chanter « Ouvrez les frontières ». Et c'est tout ce qu'on demande. Ouvrez les frontières.
Merci Marie-Hélène.
Et merci Marie-Hélène. Merci.
L'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Encore un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté.
Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits, en levant très vite sur le chemin de l'école. Un beau jour, il décide de prendre son envol.
Thank you.
I saw you riding on a pink pony. Radio Libertaire, salut, bonsoir, il est 21h presque 10 et tu me vois à travers ton poste de radio, quoi que ce soit, où tu m'écoutes, chevaucher un poney rose. Voilà, j'ai loupé mon intro. Mon intro qui était le refrain du groupe The Homosexuals. Salut, c'est les vieux homosexuels de Radio Libertaire sur Radio Libertaire. C'est le vendredi soir, comme d'habitude. Et nous sommes le vendredi 4 août 2023. Souviens-toi-en. Salut Serge.
Salut Henrik.
Salut Guy.
Salut Henrik.
Alors non, Guy, il n'est pas homosexuel. Hein.
J'allais faire la réflexion, je m'étonnais qu'il râle pas.
Bah, il s'en fout complètement, il n'écoute même pas. Il doit certainement préparer ses articles d'anarchiste. Et j'ai mon... j'ai décidé de faire attention au potard et au son, au niveau sonore des micros, parce qu'il y a aux enregistrements, quand je remonte, quelquefois j'ai des surprises. Et bonsoir Yves.
Bonsoir.
Alors toi, il faut que je remonte.
Non, remonte pas plus, là, ça suffit, là.
Non, parce que c'est souvent toi qui es le plus bas, en fait.
Non, mais là, depuis la dernière fois, je suis très haut.
Non, le niveau sonore, pas ce que tu entends dans le casque. Faut tout lui expliquer.
C'est différent.
Tu sens que je devrais entendre quelque chose dans le casque.
Tu sens, Yves, que c'est haut.
Non, ok, donc, je disais, bonsoir tout le monde. Enfin, bonsoir les auditeurs, les auditrices, le peu qui reste.
Et il y en a.
Ouais, oui, c'est sûr, là, on croule. On vient de nouveau ensemble pour tailler le bout de grain, bavarder, écouter de la musique, etc. Faire de la radio. Sur 89.4, c'est sur la bande FM parisienne, radio-libertaire.org, anarchiste.info, ça c'est pour internet, et bientôt le DAB+, sur le DAB+, quoi.
Voilà.
Alors...
T'allais dire quoi?
Je sais pas par quoi commencer, en fait. Est-ce qu'on commence tout de suite? Est-ce que...
Non, tu peux nous envoyer encore un disque. J'aime bien l'appellation, c'est The Homosexuals, le groupe?
The Homosexuals. Homosexuals.
Ah, carrément.
The Homosexuals. Ouais, carrément, oui, ouais.
C'est génial.
C'est sympa, ça fait partie, donc... Alors, on va commencer par ça, comme ça sera fait.
Oui.
Il sort énorme... Attends, j'enlève le blouson, là, parce que j'avais un peu froid tout à l'heure, je suis fragile. Et là, maintenant, j'ai un peu chaud. Alors, il fait bon dans le studio. Hein. Ça fait du bien quand il fait frais dehors, mais inversement, c'est pas...
Non, je signale aux auditeurs que j'ai prêté mon blouson.
Oh, ça va, ça suffit. Toujours en train de se donner le beau rôle.
Ah, ouais. Bien sûr, voilà. Bonjour la réputation, merci.
Mais arrête de tirer la couverture à toi. Pas le blouson à toi. Arrête. Alors, donc, on va faire tout de suite le... Est-ce que j'ai calé un morceau pour... Ok, j'ai calé un morceau pour... Il s'agit d'une compilation anglaise qui est parue en 2019... et édité par l'association Manchester Mad Pride, qui est en fait une association, et cette compilation elle a été faite pour une collecte de fonds entre guillemets, c'est ce qu'ils disent, pour le réseau de résistance en santé, de santé mentale en santé mentale, qu'ils déforment, qu'ils incarnent. Et elle est dédiée donc à son créateur, Robert Dellard, qui est décédé en 2016, qui est le fondateur donc de ce mouvement, Manchester Mad, ou je crois que ça s'appelle comme ça, je pense, qui est donc le fondateur du mouvement de protestation culturelle Mad Pride, qui est à l'avant-garde des causes des survivants, c'est bien ça, de la santé mentale. Alors je suppose que c'est des gens qui sont contre un peu le système psychiatrique tel qu'il est existant et qu'on lui a affaire à lui et qui a été en lutte contre le système, donc là, en l'occurrence, le système de santé mentale anglais, est également dédié à John Chas Several, décédé en 2014, qui était lui un compositeur sonore diagnostiqué bipolaire et schizophrène, je crois. Ce que j'ai vu, bipolaire dans la traduction, mais schizophrène dans la version originale. Donc. Je ne sais pas si c'est la traduction, le logiciel de traduction qui a merdé. En tout cas, voilà, il y a le bonheur d'écouter une compilation, c'est qu'il y a plein d'artistes différents. Et ça va faire la programmation musicale jusqu'à environ 23h27, 28 exactement. Comme ça, ça nous laissera le temps de laisser venir et s'installer Sure Shot, les hip-hoppers du vendredi soir, qui sont de retour. Mais je parlerai plus tard de la pièce sonore que nous écouterons à ce moment-là. Allez, musique. We'll be right back. Radio Libertaire, je l'ai déjà dit, à The Post Non Radio Show, ça par contre, je ne l'ai pas dit. Et donc, c'est la bande des quatre du Post Non Radio Show sur Radio Libertaire. Alors, j'avais omis de dire aussi autre chose, mais je sais déjà plus quoi. Fantastique.
Non, en tout cas, la version de la Feel Love de Donna Summer qu'on vient d'entendre est remarquable. Remarquable.
Ouais,
et on sent vraiment. Alors, je ne sais pas si le chanteur est professionnel ou si c'est simplement des personnes qui sont. Qui ont des troubles mentaux, qui ont chanté sur cette musique, sur cette base musicale. En tout cas, c'est remarquable.
Eh bien.
Ah oui, oui, c'est remarquable.
Oh. Alors, par quoi commence-t-on ? J'allais dire un truc, mais comme je disais, je m'en souviens plus. Ça avait un lien avec la compilation, je ne sais plus. Bref.
Bah, tu voulais dire peut-être le titre, l'interprète peut-être du titre qu'on vient d'entendre.
Bah, c'est Afi Love et... Et les gens qui chantaient ça s'appellent Disco Mental, tout simplement.
Ah bah voilà, je comprends mieux.
Voilà. Oui. Donc, où est-ce que nous en étions ? Où est-ce que nous en étions ? C'est la bande des quatre, c'est Radio Libertaire.
Ah, tu as la, sur le tu peux demander la parole à Guy, tu peux demander la parole
donner.
À Yves.
Donner.
Donner.
Sur le 89.4.
C'est donné.
C'est donné
et pas repris.
Par Guy, peut-être ?
Pas repris, alors quelquefois si. Qui veut nous enchanter de ces petites trouvailles de la semaine ?
Bah oui, c'est pas une petite trouvaille.
Alors le club,
c'est
de,
intéressant,
lecture,
c'est
club de lecture commence.
Voici plusieurs articles, mais alors, je peux dedans en tirer quelques-uns de très bons.
Bah vas-y, vas-y, vas-y.
Ça s'appelle... c'est sous-titré. Hein.
Nous t'écoutons.
Je ne vais pas donner de grand titre. Du pain, il faut du pain à la Révolution. Ah, ça veut dire déjà que la Révolution est proche. Et alors, il y a des personnes qui ont sorti déjà eh bien, un petit guide pratique de guérilla jardinière.
Oui.
Ah bah oui, on entend parler que partout, en ville hein, notamment, on va faire des jardins, etc. On va tout produire pratiquement dans les villes, quoi. Hein. Mais non, il n'y aura pas assez de surface, hein. c'est évident. Mais... Bon, il y a peut-être des doux rêveurs aussi, hein, c'est possible.
Oui, oui, c'est vrai que c'est un peu voilà. Idéaliste, mais bon...
Oui, c'est idéaliste.
Mais continuons à faire effectivement de la végétalisation dans les villes, pourquoi pas, mais bon, c'est pas ça qui
oui,
va
ça,
apporter...
Oui, ça n'empêche pas, tu as raison.
C'est pas ça qui va... Est-ce que ce sera vraiment ça qui va donner de l'oxygène à nos villes, notamment
non,
la ville de Paris?
Ça peut être le point de départ.
Voilà,
oui. Alors, il parle d'un petit guide pratique de la guérilla jardinière qui existait déjà il y a 19 ans, Sème la Terre, entre guillemets, c'est marqué, Sème la Terre, lançait le petit guide pratique de guérilla jardinière. Il y a 19 ans, hein? Oui.
Déjà.
Voilà. Donc, on peut dire, je ne sais pas, 2003 exactement, si on veut. Alors, 2002 même. Alors, que se cache-t-il derrière notre assiette ? Alors, avertissement, ce qui suit n'est qu'une courte perspective critique face à l'industrie agroalimentaire. Ben, c'est bien ce qu'on disait, quoi. Il faut commencer à bouger les choses et à faire face ou tout au moins à l'industrie agroalimentaire. Chaque argument mériterait d'être détaillé longuement pour ne pas être assimilé à de la simple propagande. Alors, de nouveaux ouvrages politiques, hein, scientifiques, historiques le font très bien. Vous trouverez donc en note un certain nombre de références. Vous trouvez plus d'informations. Alors, la production alimentaire capitaliste implique entre autres un usage massif de pétrole, de pesticides, d'emballages plastiques, le transport des aliments sur des milliers de kilomètres, la réduction de la biodiversité, la destruction des sols, oui, des cours d'eau, la mise en esclavage de millions de sans-papiers, des pauvres, en Europe et dans le monde. Et accepter le contrôle des ressources alimentaires par quelques grands groupes industriels est un suicide social, écologique et sanitaire à court terme. Ouf. Bon, c'est pas encourageant, hein, quand même. Serge,
je suis.
Là, c'est, oui, ça commence à tirer de tous les côtés. Suis,
mais ils ont pas tort. Ils ont pas tort parce que effectivement, bon, on retrouve effectivement la poignée de gens minoritaires sur Terre qui ont le maximum.
Oui, oui.
Voilà, c'est surtout ça, quoi.
Mais ça tourne toujours comme ça. Quoi.
Ça tourne toujours comme ça, et ça, malheureusement, ça change pas. Ça ne change pas.
Si, ça augmente.
Oui, voilà, exactement. Exactement.
Alors, les millions qu'ils dépensent en propagande pour laver le cerveau des consommateurs, consommatrices, ils le sont encore récemment autoproclamés. Industriels de la protection des plantes, nous ne ferons pas oublier que les Dupont, Syngenta, Monsanto, Novartis, Bayer et autres Dole sont en fait parmi les plus grands criminels et pollueurs de la planète. Détenant industrie pharmaceutique, production de semences, de produits chimiques et d'armements. Ah, tout ça, ça va ensemble. Hein.
Ah oui, d'accord, oui.
Ah, il faut déjà le digérer, ça. Hein, c'est...
déjà, mais de manière, ils font déjà la guerre avec des produits chimiques. Hein, donc, voilà.
Oui, donc, pour production d'armements, c'est pas idiot de l'autre côté. Hein.
Voilà.
Alors... Hors des pays riches, le développement de l'agriculture industrielle et productiviste ruine les modes d'agriculture vivrière et fait disparaître les paysans, paysannes. Bah, il faut mettre les uns et les autres parce que sinon, on ne sait plus qu'on a un mode d'expression masculinisé. Enfin, à l'origine, ce n'est pas masculinisé hein, par le latin. C'est ça qu'il faut aller revoir au début, comment ça fonctionnait, et on comprendrait mieux pourquoi on parle au masculin, voilà. Mais ça, je sais pas, les gens ne le font pas. Alors, et ça me semble bizarre pour moi de sortir du masculin, du féminin à chaque truc, comme tu dis, cher français, et que tu oublies les chères françaises derrière. Ben non, la langue française, c'est ça. Quand on dit cher français, ça englobe et le masculin et le féminin, c'est tout. Il n'y a pas à doubler et à répéter bêtement les mots. Alors donc, la moitié de la population mondiale ne vit pas dans les villes. Quand même encore, hein, parce qu'on commence à dire que de plus en plus, hein, de plus en plus, effectivement, il y a un resserrement vers les villes.
Ah, il y a des grosses agglomérations, mais...
Ouais, il y a des grosses agglomérations, mais quand même, heureusement...
Mais quand même, il y a des gens qui vivent en milieu rural, la moitié des gens vivent en milieu rural. C'est,
oui,
c'est,
sur la planète. Oui, c'est important. Oui, c'est important. Voilà, oui. Alors, parce que sinon, vers la population, vers les villes, effectivement, ça les exile par millions vers des bidonvilles, tout autour des villes, donc, et... toute cette population ne peut subvenir à ses besoins. La minorité qui conserve une exploitation agricole devient totalement dépendante de la machine, de la chimie, des grands groupes et de leur volonté. Mmh. Ils produisent en masse des plantes destinées à l'exportation et à la grande distribution, abusant souvent de sans terre pour les basses tâches. L'expansion du mode de production industrielle dans les pays du Sud est ainsi responsable d'exodes et de famines massives. Il détruit les communautés et les pratiques sociales qui échappent encore aux logiques de compétition et de profit. Alors dans les pays riches, eh bien les quelques agriculteurs qui subsistent, hein, et qui subsistent se concentrent, hein, et concentrent leurs terres, ils se regroupent, deviennent de simples agents techniques sous contrôle. Oui, mais ils sont souvent plus maintenant même possesseurs de leurs terres, ils les louent et voilà. Alors l'industrie biotechnologique parfait ce système totalitaire en produisant des semences stériles et des OGM qui vont se croiser avec les autres espèces et rendent toute autre forme d'agriculture inenvisageable. Et ce, avec qui il est aujourd'hui totalement impossible de calculer les dangers et de stopper, après coup, la pollution génétique. Voilà, ce qui fait que, effectivement, même les agriculteurs maintenant n'ont plus la main sur, eh bien, sur leurs semences. Voilà, parce qu'avant, moi, j'ai travaillé en ferme, alors je sais. Mmh. Souvent, eh bien, tous les ans, hein, pour les pommes de terre ou soit d'autres choses comme le blé, etc., on faisait soi-même ces sélections et ces semences. Voilà. Et ben ça, c'est plus possible. Voilà, parce que ben, y a des droits maintenant, il y a des brevets, il y a tout ci et tout ça. Donc, et puis les OGM qui font que de toute façon, on ne pourra pas réutiliser ces semences-là, puisque donc OGM, eh bien, faut passer par les laboratoires pour en recevoir de nouvelles. Voilà, donc c'est une première partie qui lance un peu. Après, il y a plein d'autres sujets comme ça qui sont très très intéressants. De la suite hein, de ces explications et toujours comment faire un petit peu tout autour, mais ça on peut le laisser au lecteur. C'est je pense déjà au niveau de l'introduction de ce manifeste pour des actions coordonnées de guérilla jardinière, de résistance à l'industrie agroalimentaire. C'est déjà c'est déjà pas mal,
guérilla jardinière, ouais. Moi, là, subitement, j'ai une image en tête de gens lançant des pots de fleurs et des poireaux et des cagettes de tomates à la gueule de flics qui leur répondent à coups de LBD et de... dans la gueule, quoi, je veux dire. C'est un peu disproportionné, quoi.
Ah oui, oui,
là... La guérilla potagère, là.
Oui.
Non, je plaisante, c'était pour faire... De l'humour à la con.
Pas si con que ça.
Merci, c'est... J'adore,
c'est... Je te lèche les bottes, comme c'est pas possible, même si non, t'as pas des bottes, t'as plutôt des baskets.
Mais je sais que tu abondes toujours dans mon sens, c'est formidable. Tu resteras pour la saison 1254 sur Radio Liberté. Alors, Yves, qui lui est sur une pente savonneuse, on sait pas... Le mercato n'est pas encore commencé.
Eh ben on va savoir, oui.
En septembre, mais en attendant, as-tu une... Oh, j'ai chaud subitement. Non, mais là, je trouve qu'il fait chaud.
Oui.
C'est parce que je vais parler.
Ah, peut-être.
Non, alors justement, est-ce que tu... Voilà, je te laisse la parole.
Bon, ben, j'ai un tout petit truc, histoire de pas trop effrayer les foules, qui s'appelle Délire de Faciès, c'est le canard enchaîné du 19 juillet 23. Et ça commence par encore un qui veut tuer le métier, il s'agit de Patrick Weil, historien spécialiste de l'immigration, qu'on connaît bien en France, et qui propose que les flics cessent de procéder à des contrôles d'identité.
Alors, qui c'est qu'on connaît bien, l'immigration ou Patrick Weil ?
Patrick Weil.
Alors ça me dit quelque chose, mais il faudrait que je vois sa photo.
Ok. Dans l'opinion du 12 juillet, il estime qu'en multipliant les contrôles d'identité, on crée la division et un stigmate insensé à l'encontre d'une masse de compatriotes. On peut ajouter, pour expliciter un petit peu, qu'en fait ces contrôles d'identité ont lieu seulement dans certaines banlieues qu'on qualifie forcément de problématiques, puisque c'est là que ça se passe, disons. Où donc le directeur de recherche au CNRS est-il allé chercher tout ça ? À New York, où il enseigne. En 2014, après une série de bavures mortelles, le maire de la ville, Bill de Blasio, a ordonné à ses troupes de stopper net tout contrôle aux faciès. Résultat, la criminalité, loin d'augmenter, a alors baissé. Et le canard, qui est toujours aussi méchant, ajoute simplement parce que les policiers se sont concentrés sur les gros méchants plutôt que de faire la chasse aux petits délinquants. Mais alors, ça voudrait dire qu'il faut bosser, chef, point d'interrogation. Bon, voilà. pour faire ma petite provoque. Oui. Mais, effectivement, ces contrôles d'identité, au début où...
En même temps, il n'a pas tort.
Au début où Val s'était... Premier ministre, il avait été acté dans le programme du président sur lequel il a été exercé qu'il devait y avoir un petit papier qui était donné à chaque personne si elle faisait l'objet d'un contrôle d'identité. Valls, nommé ministre de la police, avait, de l'intérieur, avait immédiatement mis sous le boisseau ce truc en disant non, ça c'est pas possible. Et donc ça ne s'est pas fait. Alors maintenant, on est dans un système éventuellement de petites caméras. J'ai lu récemment qu'il y avait un policier qui répondait à l'IGPN. Ah ben non, ma caméra s'est pas mise en marche parce que bon, ben, il n'y avait plus de batterie. Bon, d'accord. Bon, je ne vais pas en ajouter davantage. La technologie est une chose bien compliquée.
Puis, on ne devrait pas faire des contrôles comme ça d'identité sur le fait qu'on est dans une banlieue. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison.
Non, mais même ailleurs, il n'y a pas de raison.
Le problème, c'est qu'il s'est installé un face-à-face complètement absurde entre, dans certaines banlieues, entre la police et puis des jeunes qui n'en peuvent plus d'être contrôlés apparemment pour pas grand-chose, disons. Et écoutez.
Mais ailleurs non plus, s'il n'y a pas de grabuge, etc.
Le problème est
quoi? Pourquoi contrôler les gens, quoi? T'es en ville, machin. Moi, je dois avouer que j'ai jamais été. J'ai pas souvenir d'avoir été contrôlé, mais s'il n'y a pas de grabuge, etc., pourquoi il y aurait des contrôles, quoi?
Moi, j'ai été contrôlé quand j'avais entre 20 et 30 ans, une fois ou deux, et depuis plus jamais. Bon.
Ouais.
Je dois pas avoir le look.
Un deuxième article?
Non, on va se faire une pause.
On va se faire une pause, d'accord.
Un deuxième article de quoi, Yves?
Oui, fait le teasing.
On m'a dit non, je non, moi je respecte.
Mais non, fais le teasing, dis-moi,
dis-nous,
ça va parler.
J'ai plusieurs choix possibles. Il y a Johnny Hallyday qui touche encore des subventions.
Ah oui, ça on va le faire.
Je croyais qu'il était mort. Ah, merde.
Ça on va le faire. Est-ce qu'on a
Un truc qui s'appelle « Vous reprendrez bien une dose d'herbicide ». J'ai un truc sur comment s'est passé finalement ce problème entre la police et puis ce jeune homme qui a le crâne à moitié enlevé pour que le cerveau puisse se remettre du coup qu'il a reçu, du coup du LBD qu'il a reçu.
Donc okay. Voilà. Attends, okay, on voit ça après la pause musicale.
On voit ça après la pause, voilà.
Stay!
Radio Libertaire. Alors oui, on reprend là nos petites affaires. Justement, si tu me laisses...
Oui, je te laisse.
J'ai un...
Un chat dans la gorge.
Oh, puis un gros. Hein.
Un gros, oui.
Un très gros.
Un gros miaou.
Ouais. Avec les poils, les pattes et la queue, tu vois.
Voilà. Surtout la queue.
Oh, Serge. Serge. Alors, c'est toi qui m'as fait découvrir cet article dans le Canard de cette semaine, Yves. Mais j'aimerais bien quand même... j'ai pas allumé le micro de Guy. J'aimerais bien en parler parce que...
Oui, vas-y.
Je le trouve...
D'autant plus que l'article que tu as trouvé dans le Figaro et qui reprend les informations est plus complet, à vrai dire.
Et il est assez limpide, alors je vais essayer de... Bon, je vais le lire, mais c'est vrai, il n'est pas trop long, quand même.
Ah, l'article du Figaro aussi, il est beaucoup plus long.
Il est long.
Bah, tu vas voir, tu vas voir.
Ouais, bon, en gros, ah oui, c'est vrai. Tu veux nous... lire alors celui du... C'est vrai, tu as raison. Tu veux peut-être nous lire celui du...
Ah.
Celui du Canard.
Ouais, Canard. Bah, c'est un titre, Johnny touche encore des subventions. Wow, sacré Johnny. Alors, ça commence par la maison de disques de Johnny Hallyday.
Si on en parle, c'est parce que ça concerne la musique... Et c'était quelque chose que je ne savais absolument pas. Je ne savais pas du tout que ça existait.
Si, on comprend que ça existe grâce à l'article du Figaro, parce que l'article du Figaro détaille un petit peu comment taxe a été mise en place. C'est-à-dire, c'est d'abord...
Cette aide à la création... Alors, en gros, c'est... Je te laisse après lire l'article du Canard. Les aides à la création... doivent remplir le rôle d'aide à de jeunes artistes en devenir, en fait. Et donc cet argent est versé aux maisons de disques, aux labels. Mmh. Voilà. À toi, Yves.
Alors, au début, je ne vais pas reprendre tout de suite l'article du Canard, mais au début, c'est une taxe qui a été mise en place concernant les CD-ROM et les DVD à graver. Et puis la redevance s'est étendue aux disques durs externes, aux clés USB, aux cartes mémoire, aux baladeurs MP3, aux box internet, aux téléviseurs avec mémoire, aux tablettes et enfin aux smartphones. La vente de ces derniers constituant la plus grande part des sommes collectées.
Je prends 14 euros par smartphone.
Je prends ça dans le Figaro. Alors effectivement, il y a une somme de 14 euros par smartphone qui nous donne le droit de copier la musique notamment. À l'heure où il y a Deezer et YouTube, ces téléchargements ont moins le vent en poupe, mais enfin la taxe est restée.
Et pour 2022, ça représente donc pour cette redevance de la copie privée à 300 millions d'euros, dont 170 millions au titre des droits du sonore, qui va donc à l'industrie musicale. À toi, Yves. Yves.
Je cherche à trouver ce chiffre-là.
Je l'ai trouvé dans l'article du Figaro.
D'accord. Donc, la Cour des comptes, dont c'est le travail, se penche récemment sur les fameuses actions culturelles. Et surprise, si les aides soutiennent les chanteurs émergents, elles vont d'abord au plus gros. Le Collège de contrôle s'interroge, donc la Cour des comptes, sur l'utilité d'aides importantes attribuées à des projets portés par des artistes installés et dont l'équilibre économique ne paraît pas nécessiter de soutien particulier. En effet, Johnny Hallyday a perçu entre 2019 et 2022 400 000 euros pour des nouveaux projets liés à l'artiste, près de 6 ans après son décès. Son génie créatif est toujours aussi actif. C'est relativement assez incongru. C'est parfaitement légal, mais là, la Cour des comptes a tendance à critiquer.
Et là, il s'avère qu'en effet, c'est à la limite que ce soit pour un artiste encore vivant. Mais alors, il est mort depuis 2017.
Bon, mais il y a toujours des nouveaux projets.
Oui, des nouveaux projets.
Et voilà, donc, en 2021...
Initiés par de toujours Vautour, quoi.
En 2021, ça c'est l'article du Canard, les 5 budgets les plus élevés ont été attribués à la réalisation des CD de Florent Pannier pour 271 250 euros, des Enfoirés, 189 863, de Juliette Armanet, 153 749, de Bernard Lavillier, 120 131.
Même Bernard Lavillier.
Et de Benjamin Biolay, 118 680 euros. Des projets d'albums d'artistes décédés ont même été aidés, à l'instar de ceux de Michel Delpech ou de Johnny Hallyday, qui a touché 333 890 euros entre 2019 et 2021. Bon, alors, le principe, c'est plus une maison de disques encaisse, plus elle a droit de subventionner des projets. Et donc, pour la Cour des comptes, il ne devrait pas exister de corrélation directe entre le montant des droits générés et les aides attribuées. C'est le principe même de l'action artistique et culturelle. Alors, le Canard a mis le bec dans les chiffres 2022 de la SCPP, Société de l'industrie du disque dispensatrice de ces aides, et parmi les artistes les plus subventionnés, peu de nouvelles stars. Indochine, 188 000 euros pour un livre disque. Pardon, pour un disque live. Ah, bah ça arrive.
Louise aurait pu être un livre disque. Hein.
Ça aurait pu. c'est sans doute parce qu'on m'en a offert un récemment, mais bon. Alors, Louise Attaque.
Attends.
160 701.
Ça va certainement pas aller à l'artiste, puisqu'il s'agit de Nina Simone, qui est morte il y a déjà un bout de temps.
J'ai pas parlé de Nina Simone.
Oui, non, mais tu parlais de ton cadeau.
Ah oui.
Bref, passons.
Ah, mais il y en a qui savent fou, décidément. Aya Nakamura, 156 866. Benjamin Biolay, 141 858. Ce qu'il place de nouveau dans le top 5. Juste derrière eux, deux débutants. Étienne Dao, 138 085 euros. Adamo, encore lui, 129 780 euros pour un nouveau projet.
Ah, attends, j'ouvre une parenthèse. Voilà. Cette redevance qui est versé automatiquement aux sociétés de droits d'auteur, et alors là c'est l'article du Figaro, est partagé entre les ayants droit, c'est-à-dire artistes, producteurs et maisons de disques, qui en reçoivent les trois quarts, le quart restant servant normalement à subventionner, ouvrez les guillemets, des actions culturelles, rappelle la Cour des comptes. En première ligne, la Société Civile des Producteurs Phonographiques, la CSPP, qui représente les gros éditeurs comme Sony Music, Universal ou encore Warner. Mais tu te demandes, c'est pas possible que ce fric aille à ces gens-là. Bon, voilà.
Qui ont largement les moyens de faire de la création.
Qui ont largement les moyens, d'une part, et la Société des Producteurs de Phonogrammes de France, la SPPF, pour les labels indépendants, d'autre part. Donc, toutes deux défendent leur système d'attribution d'aide à la création, sur lequel elles ont la main haute. Voilà. La CSPP affirme que la création, même portée par des artistes confirmés, représente un risque. Bah, quand même un peu moindre que des artistes émergents, hein. Puis bon, quand
oui,
même,
oui, oui.
C'est quand même des gens, là, avec tous les exemples donnés, qui vendent beaucoup de disques. Alors, ça paraît complètement étonnant. D'autant plus que leur projet coûte plus cher. Donc, c'est ces fameux gros labels qui disent ça.
Oui.
Comme s'ils n'avaient pas 200 000 euros. Mmh. Hein. Bon, enfin, bref. La SPPF, elle, pour sa part, produit des chiffres qui se veulent éclairants. Selon elle, 90% des aides ont été attribuées à des projets d'une... Alors je rappelle que c'est les labels indépendants. Mmh. Ont été attribués à des projets de nouveaux talents, entre guillemets. Attention au micro! Parce que nous, on ne peut pas faire une demande à cette redevance. Hein.
Ah d'accord.
Elle ajoute devoir faire face au risque de voir les artistes qui génèrent beaucoup de droits la quitter s'il estimait ne pas percevoir assez d'aide. Donc en plus, ces artistes qui bouffe allègrement au râtelier et sans en avoir forcément besoin, puisqu'ils ont vendu énormément de disques dans leur vie et leur carrière, en plus font du chantage.
Voilà,
alors si j'ai pas le droit aux aides, je me barre.
Alors en fait,
c'est déplorable.
La Cour des comptes n'a pas de pouvoir de contrainte, comme tu peux voir à la suite, et elle recommande à la SCPP et à la SPPF, c'est des noms de code, hein, de revoir la répartition de ces subsides, oui, pour revenir à leur objectif initial.
Oui.
Et pour cela, il faudrait réduire la part du budget d'action artistique et culturelle consacrée à des projets portés par des artistes confirmés et favoriser davantage les jeunes qui n'ont pas encore émergé. Et le Figaro conclut, le débat est ouvert. Il y a une différence de ton entre le Canard et puis le Figaro, c'est marrant parce qu'il termine sur ça. Et il s'appuie beaucoup sur l'article du Canard.
Comme oui, quoi, mais il en reste l'article du Figaro.
Il est plus complet, oui. Il explique bien.
Mais il en reste pas moins. Tu sens quand même que le journaliste est dubitatif. Même lui, il s'interroge et entre les lignes, on se dit... il se dit, et nous avec, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi.
Non, mais Le Canard, c'est un journal satirique qui est là pour débusquer des trucs qui ne plaisent pas, alors que Le Figaro veut un journal d'opinion. Et donc, il propose éventuellement, il affiche ce qu'il pense. Voilà, le débat est ouvert. Il avance un peu plus vers une solution, ce que Le Canard ne fait pas. Ce que fait Le Canard, c'est qu'il montre un truc qui est ridicule, et puis voilà...
Enfin, ridicule, non.
Bah, là, si, complètement là, ridicule, là, c'est absurde.
Non, c'est pas de l'absurde, là, c'est de l'abus. On est dans l'ordre de l'abus. On est dans l'ordre de l'abus total et de l'extorsion. J'irais même jusqu'à dire de l'extorsion de fond.
Moi, je
de
sais.
De la part de labels de musique extrêmement riche.
Moi, en plus,
extrêmement puissant.
Je télécharge pas de musique.
Inonde la planète de leurs produits, entre guillemets. Il y en a, mais pas tous, culturels. Hein,
de plus ou moins bonne qualité, en plus.
De plus ou moins bonne qualité dans la forme et le fond. Et qui, en plus, se permettent de sucer des fonds publics et honteusement, pour en plus des artistes qui sont là depuis. Alors, même Bernard Lavilliers, alors là, je suis écœuré. Je croyais que Bernard Lavilliers était quand même un poil plus intègre. Et pour des artistes qui sont là depuis 40
mais
ans.
Non, mais il n'y a pas de malhonnêteté qui ont aucun problème. Part des artistes, c'est le système qui est comme ça. Ils
mais attends,
sont pour rien.
Tu as bien lu cette phrase où ils disent que certains artistes, ils n'ont pas leur aide pour faire leur disque.
Bah, c'est évident.
Attends, ils font du chantage. Excuse-moi, ils sont déjà sur des gros labels qui leur donnent les moyens de payer des studios, des musiciens, des graphistes, des gens qui font des pochettes, etc. Et en plus, ils se plaignent. Magnifique.
Moi, j'ai vu apparaître cette taxe sur les CD, je me rappelle très bien.
Moi, je trouve ça désastreux.
Et
quoi.
Bon, à l'époque, ça m'amusait un peu de payer quelques centimes sur un CD. Bon, c'était rien du tout sur un DVD. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ça avait été étendu au fur et à mesure à tous les supports que j'ai cités tout à l'heure, jusqu'à arriver à une somme de 14 euros. Alors, je ne sais pas pourquoi 14, peut-être qu'il y a un plafond par smartphone.
Alors, cette taxe est en plus de la TVA. Donc, en plus de la TVA, tu payes cette taxe sur tout, les cartes SD, les clés USB, tout support où tu peux enregistrer quelque chose.
Bah, c'est-à-dire que le texte, il est devenu un petit peu obsolète, puisque maintenant, on a Deezer, on a YouTube, et donc les téléchargements, on n'en fait plus, quoi. On écoute directement.
Ouais.
Bon, donc,
des copies, tu veux dire.
Bah oui, donc il faudrait peut-être retoiletter ce texte qui date d'une période où il n'y avait pas encore les smartphones, où il n'y avait pas encore à l'origine de tout ce que j'ai cité tout à l'heure, à savoir les box, etc. Quoi.
Bah là, on vient au problème des artistes qui se plaignent des plateformes de streaming, Deezer, Spotify, entre autres, où ils disent qu'ils ne sont absolument pas... enfin, il n'y a aucune rémunération, et s'il y a, c'est de l'ordre du centime, quoi. Voilà, allez, musique.
forgotten what life was like before, or how I must have thought years ago. I've forgotten who I am. I am nobody. What's the point of becoming a me if nobody wants me? I am my own worst enemy. Nobody could dislike me as much as I do. I've forgotten what my life was like before the weight of the world descended on my shoulders, and stress and anxiety made themselves known to me. Sure, I should have laughed more, gone out more, met new people more. Before. I can't go back. I must go forward. There's nothing to go back to. Anyway, it's all gone. I can't go back to a life that I can't remember. A non-person. Someone hidden that nobody looks for. A nobody. A waste of space. A nothing. That's me. I love Sidney Nolan's painting of an artist in a landscape.
Thank you.
C'est joli. C'est beau.
Oui, Daniel Dax Numb Companions. Et juste avant, il y avait David Hoyle. C'était moins sympa. Enfin, je veux dire, dans l'atmosphère, l'ambiance, c'était beaucoup plus tourmenté. Alors, les enfants.
Moi, j'ai un article qui m'a beaucoup intéressé. C'est un article d'humeur, vraiment d'humeur, écrit par M. Loïc Le Froc Prigent.
Prigent.
Le froc Prigent. Vous êtes très drôle, j'ai adoré. Et donc, il rappelle que le 1er août, les prix de l'électricité ont augmenté de 10%.
Oui.
Ce monsieur, il a été ancien président de Gaz de France. Il est ingénieur. Il a été président de la SNCF également. Et il écrit un article d'humeur dont j'ai envie de vous parler parce qu'il dit que on a eu la surprise que le gouvernement, comme observateur, semblait ignorer que depuis des mois, les entreprises et surtout les industriels et artisans se battaient avec des factures, non pas de relèvement de 10 ou 25% comme les particuliers, mais de 300 à 600%. On se rappelle les boulangers à un moment. Et que ces entreprises... Oui, mais 300 à 600%, c'est pas tout le monde.
Non, il n'y a pas que les boulangers, il y a les bars,
Et ces entreprises sont également françaises, mais le bouclier dont les ministres se glorifient en disant qu'il a protégé les Français n'a été généralisé que pour les particuliers et quelques autres, soit la moitié de la consommation électrique nationale, mais les autres souffrent, ont souffert, continuent à souffrir et demandent grâce depuis plus d'un an déjà. Le nombre de faillites s'accélère, dit-il, les artisans ont déjà fermé, d'autres s'y préparent et les productions déménagent ou s'y préparent pour les mois à venir. Et ça, c'est la réalité de l'augmentation rapide et immodérée du prix de l'électricité. Et la position de la plupart des acteurs du secteur énergétique, c'est que le marché de l'électricité, créé pour nous, Français, dans les années 2000, dans un cadre européen, nous a mis dès le départ, avec la loi NOM, en 2010, dans une situation difficile, mais que désormais, c'est la compétitivité de l'ensemble de l'industrie française qui est en cause, car nous payons l'électricité la plus chère d'Europe, alors que nous la produisons au coût le plus faible, grâce à notre outil de production nucléaire et hydraulique. Et rentrer dans ce marché de l'électricité, il y a une quinzaine d'années, était un choix technocratique volontaire, contesté par les énergéticiens français, mais aucun traité n'existe qui nous y oblige, et surtout, nous pouvons nous en retirer lorsque nous voulons, sans contrevenir à nos signatures contraignantes. Ce choix a été préjudiciable à notre pays pendant 15 ans, et nous avons survécu, mais le contexte actuel conduit désormais au désastre. Nous avons protégé pendant un temps court les particuliers, mais ils viennent de connaître deux augmentations, 15% en février, 10% au mois d'août. Ils savent que c'est pas fini, alors que le coût de cette mesure se compte en milliards et qu'ils sont aussi des contribuables, tandis que les industriels et artisans ne voient pas le bout du tunnel avec des contrats qu'on leur propose sur 2 ou 3 ans qui mangent leurs marges sans qu'ils puissent répercuter les augmentations chez les clients. Et donc se retirer du marché de l'électricité est donc une nécessité et les réticences, dit-il, du gouvernement à le faire sont inexpliquées, inexplicables et inexplicables rationnellement. D'autres pays, l'Espagne et le Portugal, pour le Portugal j'avais entendu parler, très rapide, donc d'autres pays, l'Espagne et le Portugal l'ont fait sans heurts comme il était prévu et nous pouvons le faire dans l'instant en mettant simplement en difficulté les fournisseurs entre guillemets fournisseurs, inventés par les technocrates qui ne fournissent rien, ne produisent pas, ne transportent rien, ne distribuent rien, qui ne font que spéculer. Et immédiatement, comme le demande le ministre de l'économie et le président du réseau de transport RTE, on pourrait rapprocher le prix à payer du coût effectif et donc retrouver notre compétitivité industrielle et rassurer tous nos compatriotes, contribuables et consommateurs d'électricité. Nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas comprendre pourquoi cette opération n'est pas réalisée rapidement. Notre pays ne retrouvera sa prospérité qu'avec une énergie abondante, bon marché et souveraine, souligne-t-il. Commençons par le bon marché, puisque nos coûts sont les plus bas. Ensuite, puisque certains pensent que nous risquons la pénurie, mettons-nous en ordre de marche pour utiliser tous nos moyens pour satisfaire les demandes futures. C'est loin d'être le cas, car nous insistons actuellement sur les énergies dites renouvelables, à la mode éolienne et solaire, à la mode entre guillemets, alors qu'elles sont intermittentes, et pour les éoliennes aléatoires, au détriment de toutes les autres solutions, comme par exemple la méthanisation agricole, l'hydraulique, qui elles sont pilotables. Nous devons passer les pics de consommation, et cela doit être notre priorité. Enfin, dans la mesure où nous souhaitons demeurer souverains, n'exagérons pas la rapidité du changement vers l'électrique. Véhicules comme pompes à chaleur, restons le temps qu'il faut en cohabitation avec les automobiles thermiques et le chauffage au gaz. Des décisions évidentes et un peu de cohérence dans les orientations ne nuiraient pas à une bonne préparation de l'avenir. Et surtout, gardons notre tissu industriel, nous en avons besoin, nous en aurons besoin.
Il y a souvent, certaines personnalités ont mis en avant, par exemple, la nationalisation, la renationalisation d'EDF, oui, par exemple.
C'est ce qu'ils sont en train de faire.
Voilà, justement, parce que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la solution. Parce que là, c'est pas possible de payer des prix comme ça, d'électricité. L'électricité, c'est un bien public, c'est un bien nécessaire, c'est un besoin vital. Donc, je ne vois pas pourquoi il y a ces augmentations, je ne comprends pas.
Ben, c'est parce que dans le système dans lequel nous avons accepté d'entrer, on paye le prix de l'énergie au prix de la dernière énergie qui vient suppléer la dernière tranche qu'on met en route quand il y a un trou dans la production haute énergie. Quand il en manque un peu, on met une centrale à charbon ou à gaz en marche supplémentaire, et donc c'est le coût de cette dernière de ce dernier truc qui l'emporte. Donc on paye le double par rapport à ce qu'on paye l'énergie nucléaire. On paye en fait le prix du gaz. En plus, on revend de l'énergie nucléaire. Bon, EDF est obligé de revendre de l'énergie nucléaire à, je crois, 40 euros par unité, dont je ne me rappelle plus, à des entreprises privées qui lui font concurrence. Eux, ils le revendent sur les marchés à 60, 70 euros, 80 euros, et ils se mettent la différence dans la poche. C'est pour ça que Loïc Le Floch-Prigent parle de gens qui ne fabriquent rien, qui ne font rien transiter. Ils se contentent de faire un jeu de marché. Et c'est assez problématique, c'est vrai. Je ne sais pas non plus. J'ai entendu parler un petit peu de quand le Portugal l'a fait. Il y a eu un silence radio massif, à part cette phrase que je répète encore. Et sinon, le thème n'est pas exploré du tout sur les radios, mais ça ne m'étonne pas.
Oui.
Je...
Radio Libertaire, The Post Non, The Post Non Radio Show, The Post Non Radio Show sur Radio Libertaire. Je viens de me souvenir de ce que j'avais oublié tout à l'heure concernant la compilation et de ce dont je voulais parler. Il s'agit de son titre, en fait. Alors, je sais pas si j'en ai parlé. Le titre de cette compilation, c'est de l'asso et du collectif Manchester Mad Pride, ou tout du moins Manchester Mad. Ou,
oui, ça tu l'avais précisé.
Ça s'appelle Enragé Fou Noir. Alors, enragé, on sait. Fou, on sait. Mais noir, je sais pas trop. Noix comme la noix, une noix, des noix qu'on casse et qu'on mange. Je vois pas trop le...
Peut-être une allusion aux nuts, par exemple, quand on est nuts en anglais.
Ah,
nuts.
Nuts and
les nuts pour quelqu'un qui est dingue, quoi.
Ah bon?
Ah,
c'est peut-être ça.
D'accord, enragé, fou, noir.
Queer, quoi.
Non, pas queer.
Non, mais je rigole sur queer parce que j'ai lu récemment une exposition que j'ai vue hier. Ce que voulait dire queer à l'origine, et ça veut dire c'était employé dans un sens étrange, bizarre. Et je ne savais pas.
Ah, à l'époque, oui. Ah oui, c'est l'exposition Thanks God I'm Gay. Je remercie Dieu d'être homosexuel.
Voilà.
C'est au centre Pompidou.
Oui.
Actuellement.
Actuellement, je ne sais pas jusqu'à quand elle...
Je ne sais plus. Novembre, je crois.
Ouais, alors, il y a une partie au rez-de-chaussée. Et puis, il y a une partie avec des vitrines que je n'ai pas vues, qui se trouve au troisième étage de la bibliothèque, qui est en accès libre. Bon, il faudrait retourner éventuellement.
Ah, ok, mais j'ai pas fait gaffe.
Ben, c'est en lisant le petit dépliant.
Ah, donc oui, il y a...
Tardivement.
Il y a... Alors, c'est vraiment basé sur des archives. Il y a des films qui sont projetés.
C'est les archives essentiellement de la Fondation Kandinsky. Je sais pas pourquoi précisément.
Il y a des archives... manuscrites, il y a des magazines, des revues, des photos, des films, des disques également. Voilà, c'est assez, j'allais dire c'est assez complet, non, c'est pas le terme exact. C'est intéressant, c'est intéressant et. Vous êtes un peu habitué d'autres expositions, vous avez eu d'autres expositions, vous êtes un peu habitué du monde homo, il y a plein de choses qu'on connaissait un peu, puisque reviennent beaucoup de gens qu'on connaît, Jean Genet, Jean Cocteau,
Jean Cocteau, vraiment ? Oh, n'allons pas salir sa relation avec Jean Marais. Bon, je plaisante.
si, il y a Jean Cocteau.
Oui, bien sûr, il y a Jean Cocteau.
Andy Warhol, celui qui a fait... Kenneth Anger, qui d'autres encore, un certain nombre qu'on retrouve souvent en fait dans ce qu'on appelle la culture gay. Voilà. La culture homosexuelle.
Et d'ailleurs, à l'origine, la culture homosexuelle, enfin, en tout cas, les marches des fiertés, en tout cas les gay pride, viennent...
Marque déposée
viennent, non, marque déposée, d'accord, ok, mais en fait, à l'étranger, c'est gay pride, viennent justement de l'intervention de la police, justement, de la police, contre effectivement les personnes homosexuelles. Et on en vient justement à la police, justement, Yves.
La police ne nous harcèle plus, mais elle ne nous écoute pas. Quand tu vas déposer. Non, si, quand même. Il y a des dossiers qui prennent au sérieux. Ça dépend des flics. Parce que je pense que Il y a des good cops et des bad cops.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
Je suis content de ma trouvaille.
Ah oui, non, c'est... Donc, alors,
surtout sur Libertaire, si tu dis qu'il y a des bons cops, je suppose que ça doit exister. Mais bon.
C'est un peu long. Enfin, le journal Le Monde a publié sur une page entière,
ah oui,
daté du 4 août, un article où il raconte le tabassage de M. Eddy R. à Marseille, reconstitué. Et donc, la justice, dit-il, devait se prononcer jeudi sur la demande de levée de la détention provisoire du policier mis en cause. En fait, elle a gardé la détention provisoire. Bon, il raconte dans le détail.
Non, ben, je
suis pas sûr de me lancer là-dedans.
Non.
C'est un peu long.
Si c'est surtout un double page, machin.
C'est pas un double page. Je pensais reparler un petit peu de l'impasse culture, parce que là encore, la Cour des comptes est du 18 juillet, et en plus, la Commission des finances du Sénat, du 11 juillet, a encore râlé un peu plus sur le passe culture, qui coûte actuellement 273 millions d'euros en allée pleine, soit le deuxième budget du ministère de la Culture derrière celui de la Bibliothèque nationale de France.
Parce que les gamins ont tout été dépensés en manga écrit par des Japonais.
Ça s'est passé de course à cuite, mais oui, c'est un peu ça. Ils disent qu'en mai 2021, ils ont généralisé le pass culture à partir de aux résidents âgés de 18 ans. À tous les résidents âgés jusqu'à 18 ans, donc en mai 2021. Au bout d'un mois, il était constaté que ce pécule permettant d'acquérir billets de cinéma ou de concert, CD, DVD ou des livres, servait à 84% à acheter des mangas. Puis il a été étendu aux 15-17 ans à partir de février 2022 sous la forme d'une part collective dévolue aux établissements scolaires qui s'en servent surtout pour des sorties.
Pour aller voir des expositions de manga.
Et à des spectacles, avant une future extension aux 12-15 ans. Et pendant cette longue période de gestation, le pilotage a été emblématique des dérives du recours extensif à des consultants extérieurs pour des missions de nature administrative et politique, accuse la Cour, qui tire un bilan sévère de cette phase de préfiguration. L'ex-conseiller de Sarko, Éric Garandeau, dont on a déjà parlé la semaine dernière, chargé de mettre en œuvre ce chantier culturel prioritaire du président, a ainsi touché plus d'un million d'euros en un an et demi à travers sa société Garandeau Consulting, alors que cet inspecteur de finances en disponibilité aurait pu accomplir les mêmes missions en détachement pour un salaire bien moindre, souligne la Cour. Mais c'est à ce prix que le Pass Culture a été lancé comme une start-up d'État. « Bonjour l'ingénierie culturelle », s'exclame le canard. Et la Cour s'étonne, au passage, de la disparition de la liste des consultants, ainsi que des factures et des mails pendant la période 2018-2019. Ah ben ça, c'est bizarre. Et le canard avait raconté en son temps que Macron souhaitait au départ octroyer 500 euros à chaque jeune, puis qu'il avait discrètement ratiboisé à 300 en 2021 le pécule culturel, sous prétexte qu'il était alors peu utilisé au sortir du confinement, mais aussi aux raisons de son coût, car le modèle de fourniture gratuite des services que Carando entendait obtenir des partenaires en ligne, c'est-à-dire fournisseurs de jeux vidéo, éditeurs de journaux, sites de VOD, a échoué. Et voilà qui valait bien 1 million sans doute.
Alors, attends.
Dit JC, l'auteur de cet article, qui est dans le Canard enchaîné de cette semaine, donc du 26 juillet, je crois.
Alors, pour moduler un peu le truc, quand j'étais au boulot, il y avait aussi quand même beaucoup d'ados payaient leur place avec le pass culture. Alors, évidemment, je vous rassure tout de suite, c'était pour aller voir des blockbusters. Spider-Man et compagnie, voilà. Donc là, évidemment, je ne sais pas si ça a loupé son coup. Je laisse ça à l'appréciation de la Cour des comptes, après tout. Hein. Mais bon, principalement, les films qui étaient vus avec l'entremise du pass, ben, c'était ces films-là, quoi. C'était les gros films généralement américains pour adolescents.
Est-ce que ce passe culture n'était pas une mesure un peu démagogique ?
Bien sûr.
C'est pour attirer les voix, disons.
Bien sûr, c'est moi, je trouve que c'est de la démago totale. Hein.
Ah oui, oui.
Bah, c'est-à-dire que...
C'est de la grosse démago.
À la même période, il était question de faire un revenu universel. aux élections, à la première élection de
Macron. C'était une très bonne idée, ça. Ça c'est une très bonne idée.
Et cette idée, j'ai pas les références sur place ici, mais j'ai vu passer des articles. C'est un truc qui revient actuellement en Allemagne, d'une part, qu'on peut pas soupçonner de laxisme, et également, je crois que c'est en Espagne, où ils essaient de mettre ça en place.
Et en Italie, c'était mis en place. Il y avait aussi un revenu minimum en Italie, mais qu'a supprimé Giorgia Meloni.
Bien sûr, voilà, oui. Ah, c'est con, hein. Oui, oui.
Oui. Et elle a mis, elle met vraiment dans la merde quasiment 1 million d'Italiens. En échange, il y a de l'emploi, mais peut-être de l'emploi précaire,
des choses comme ça. Oui, oui, on imagine. Voilà.
Voilà.
Bon, on parlait de manga, ben je suis sûr que vous allez vous dire, mais est-ce qu'il y a du japonais en stock sur cette compilation? Eh bien oui, il y en a.
Eh ben on écoute.
We run through the wave,